le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Julie Dussault et Claude Mangin-Asfari pour découvrir une opération humanitaire destinée aux enfants réfugiés sahraouis. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Milena Vlak, qui est metteur en scène et comédienne et qui va présenter à Avignon une pièce de théâtre, un texte magnifique, « Rallumer tous les soleils, Jaurès ou la nécessité du combat ». Carmela et son ami, le grillon Negrito, viennent encore une fois de passer quelques heures au commissariat. Et si Carmela n'avait pas eu 11 ans et Negrito n'avait pas été un grillon, ils auraient écopé d'une peine pour rébellion et insulte à la force publique. Je vous raconte leur dernier exploit. Ils étaient devant la prison de Lannemezan pour manifester pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah, emprisonné, je le rappelle, depuis 33 ans et libérable depuis 1999, mais toutes ses demandes de libération ont été rejetées. Alors, pourquoi soutenir cet homme, Carmela? Parce que personne n'en parle et que c'est un prisonnier politique en France. Oui, mais de là à insulter les CRS, c'est vraiment n'importe quoi, Carmela. Mais nous ne les avons pas insultés, s'indigna Negrito en voletant comme un fou devant mes yeux, frôlant même mes cils. On ne les a pas insultés, on a juste dit la même chose que notre président de la République, M. Macron. Non, mais n'importe quoi, expliquez-moi mieux, je ne comprends pas. Carmela et Negrito rejouèrent devant moi la scène. « Vous n'allez pas nous faire peur avec votre uniforme. La meilleure façon de se payer, monsieur le CRS, un costard, c'est de travailler. »«
Non, vous avez dit ça au CRS ?»«
Oui, et Negrito a dit aussi que dans leur rang, il y a des illettrés, comme le président Macron avait dit aux employés de GAD. »«
Non, là vous exagérez tout de même. Qu'est-ce que vous avez dit encore pour vous retrouver au commissariat ?»
Ah oui, oui, que les fourgons de police protégeaient peu, mais transportaient des matraques et du policier.
Du policier? Mais c'est méprisant cette formule, du policier.
Ben non, c'est rigolo, c'est la blague du président.
Comment cela, la blague du président?
Ben oui, sa blague très douteuse, on te l'accorde. Le quoi ça pêche peu, il amène du comorien.
Mais c'est atroce, du comorien. Et en plus, ce sont des gens qui meurent noyés par centaines. Vous êtes sûr qu'il a dit ça?
Bah, on est bien d'accord avec toi, mais tu vois, le président, lui, ils ne l'ont pas mis en garde à vue pour insulte, humiliation, incitation à la haine raciste.
Mesdames, on va parler de combat aujourd'hui, rallumer tous les soleils, Jaurès sous la nécessité du combat avec votre pièce, Milena Vlak, et vous, Claude Mangin-Asfari et Julie Dussault, le combat que mène un peuple, qui est le peuple sahraoui, pour être libre sur son territoire. Peut-être, avant de parler de l'accueil des enfants, puisque depuis 1983, je crois, des enfants, tous les étés, sont accueillis en France, dans pas mal de villes françaises, mais aussi peut-être dans notre pays, vous nous le direz, pour partir un peu du camp de réfugiés où ils sont à Tindouf et pouvoir respirer un peu et peut-être voir le monde à travers d'autres yeux. Claude Mangin-Asfari, je crois qu'il est nécessaire de resituer un peu où est le Sahara occidental. Alors, ça tombe bien parce que vous êtes professeur d'histoire et de géographie, que vous avez passé 2 ans dans les camps de réfugiés de Tindouf et que, au titre de pas mal d'associations, vous êtes impliqué, et comment, puisque vous avez épousé aussi un Sahraoui qui est aujourd'hui en prison, on en parlera tout à l'heure, Nama Asfari. Donc vous allez pouvoir nous resituer à la fois géographiquement le Sahara occidental, Tindouf, qui n'est pas au Sahara occidental, et peut-être en résumé cette histoire de colonisation depuis 1976, c'est-à-dire c'est un des pays non décolonisé, je dis « des » si j'y ajoute la Palestine.
En Afrique, c'est le dernier pays.
Mais en Afrique, c'est le dernier pays. Non décolonisé. Alors, où est-ce que se trouve le Sahara occidental?
Comme son nom l'indique, il est à l'extrême ouest du Sahara, le long de l'Atlantique, entre le Maroc et la Mauritanie. Donc c'est un territoire qui est quand même grand comme la moitié de la France et qui était peuplé de nomades. Et il a fait partie de la division de l'Afrique au moment du congrès de Berlin en 1885. Et il a échu à l'Espagne. Et donc, depuis 1884 jusqu'en 1875, c'était une colonie espagnole, le Rio de Oro. Et en 1975, c'est le Maroc qui a envahi, et la Mauritanie qui ont envahi ce pays quand l'Espagne est partie.
Alors on se souvient peut-être de la Marche Verte, hein, voilà. Le roi du Maroc à l'époque avait appelé cette invasion...
Pour récupérer les provinces du Sud, puisque c'est la phraséologie de l'occupant marocain de parler des provinces du Sud en parlant du Sahara occidental. Et au moment de cette invasion, parce que derrière les civils qui ont été enrôlés dans cette Marche Verte soi-disant pacifique, il y avait l'armée derrière, devant, à côté, qui, accompagnés par les avions, soutenus par l'aviation de Monsieur Giscard d'Estaing, ont bombardé des populations civiles qui ont été obligées de s'enfuir vers l'Est, puisqu'autrement, il n'y avait pas d'autre possibilité, et qui se sont donc réfugiés, et ils y sont toujours sur le territoire algérien, dans la Hamada, où ils ont créé une république arabe sahraoui démocratique en exil, dirigée par le Front Polisario. Et il reste évidemment des Sahraouis dans les territoires qu'on appelle des territoires occupés du Sahara occidental. Et depuis la fin de la guerre en 91, c'est-à-dire depuis le cessez-le-feu signé sous l'égide de l'ONU, il y a une MINURSO, une mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental, puisque c'est la manière dont tous les pays du monde, et d'Afrique en particulier, se sont libérés, sont devenus indépendants par l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Ce référendum promis au Polisario, qui n'a jamais été organisé par le Maroc, avec la complicité en particulier de la France et du Conseil de sécurité, qui depuis tout ce temps-là, maintenant 25 ans, n'a toujours pas organisé ce référendum.
Malgré les résolutions de l'ONU, hein, qui reconnaissent au peuple, le peuple sahraoui.
Voilà, c'est un peuple, un territoire non autonome depuis 1963. Et donc, il n'y a rien qui empêche d'organiser ce référendum, sauf la mauvaise volonté du Maroc qui dit qu'il est chez lui de toute éternité et pour l'éternité.
Alors on imagine que la complicité de la France et de quelques autres est bien comprise d'un point de vue économique, car il y a des richesses. L'Europe elle-même a des accords commerciaux avec le Maroc sur les territoires occupés. Et il y a eu d'ailleurs parfois des dénonciations de ces accords quand même, mais la puissance du Maroc et de la France, son allié, est importante, y compris dans la presse d'ailleurs, puisque c'est une censure absolument phénoménal. On ne peut pas parler de cette question-là. On ne peut même pas faire des films. J'en profite pour dire que Javier Bardem, les dames verront qui c'est, le grand acteur hollywoodien, a fait un film qui s'appelle Les Enfants des Nuages, la dernière colonie, qui a eu le Goya 2013 en Espagne, qui est l'équivalent des Césars en France, qui est un film très pédagogique. Si vous voulez en savoir plus sur le Sahara occidental et cette colonisation, il prend même la parole à l'ONU, et il faut savoir que ce film, vous ne le trouverez que sur YouTube ou en le commandant je ne sais où, car un des seuls pays où il était censuré, et Javier Bardem est venu par deux fois faire des conférences ici, c'est en France. En France, il est censuré, on ne pourra jamais le voir ni dans une salle de cinéma, ni à la télévision, sauf si on fait des projections privées ou associatives. Alors cela étant dit, Claude Mangin-Asfari, cette opération des enfants, venons-y. Donc ce sont des enfants qui sont pas dans les territoires occupés par le Maroc, mais dans le camp de Tindouf. Comment est née cette idée ?
Donc, en France, depuis le début, il y a eu des personnes qui ont toujours travaillé pour la lutte anticoloniale. Et donc, en 1975, au moment où pratiquement tous les pays avaient obtenu leur indépendance, il restait ce Polisario qui a été soutenu par un certain nombre de militants et aussi par des gens qui s'intéressaient au Maroc, puisque à cette époque-là, le Maroc était aussi très... il y avait énormément de militants de gauche qui étaient dans les prisons marocaines. Donc il y avait tout un mouvement de solidarité avec le Maroc et avec le Sahara occidental. Et pendant toutes ces années de guerre, on en a parlé un peu plus qu'on en parle aujourd'hui, soutenu cette création de cette république, et on a eu l'idée d'offrir des vacances à des enfants qui vivent dans un endroit qui est peut-être le plus chaud du monde, où il fait très froid l'hiver, très chaud l'été, et pour leur donner un peu la possibilité de rencontrer des gens pour qu'ils pensent que tout le monde entier n'est pas hostile. Et puis en même temps, les sortir de cette fournaise.
Alors, ces enfants, ils arrivent en France et ils sont accueillis. Julie Dussault, vous êtes militante, je peux le dire, j'imagine, pour défendre ces enfants et peut-être au-delà la question Sahraoui. Vous êtes chargée de mission aux relations internationales au cabinet du maire de Saint-Denis et vous vous occupez plus particulièrement de deux villes partenaires, Ivry-sur-Seine et Saint-Denis, pour l'accueil des enfants. Mais j'imagine qu'il y a d'autres villes en France qui accueillent les enfants.
Tout à fait. Depuis 1983, donc c'est entre une quinzaine et vingtaine en fait de villes et associations qui se mobilisent. Donc on le disait, malgré en fait la position de l'État en France, les acteurs locaux, associatifs se mobilisent pour exprimer toute leur solidarité international avec le peuple sahraoui et donc en manifestant très concrètement des actions de solidarité envers les enfants sahraouis, donc en leur permettant pendant un mois et demi, deux mois l'été, de sortir des conditions de vie qui ne sont pas faciles, vous l'imaginez bien, des camps de réfugiés de Tindouf. Hein.
Alors comment cela se passe-t-il? Est-ce qu'ils sont accueillis par des citoyens des villes partenaires? Est-ce qu'ils sont dans des centres de vacances? Comment ça se passe concrètement pour ces enfants?
Alors chaque localité, chaque ville ou association a sa manière effectivement d'accueillir les enfants sahraouis. L'idée, c'est de permettre, d'une part, il y a plusieurs objectifs. Effectivement, c'est ce que Claude énonçait, pouvoir permettre aux enfants de, pendant l'été, pendant deux mois, sortir du camp, rire, s'amuser, découvrir, créer, jouer avec d'autres enfants et en cela vivre pleinement leur vie d'enfant. Donc c'est déjà un objectif qui est très important. Et puis c'est aussi permettre dans les villes où sont accueillis les enfants, de pouvoir rendre plus visible le problème des Sahraouis, en permettant à ces enfants d'échanger avec d'autres enfants. C'est pour cela que dans bien des villes qui accueillent, c'est le cas à Saint-Denis, c'est le cas à Ivry-sur-Seine où j'ai pu aussi travailler, les enfants sont accueillis en centre de loisirs et en colonies de vacances. Et en cela, c'est vrai qu'il y a, je peux témoigner de moments très fort, très très intense l'année dernière dans un centre de loisirs de la ville d'Ivry-sur-Seine. Donc la responsable du centre avait fait un accueil formidable et donc où les enfants avaient été accueillis avec des banderoles. Moi j'avais un petit peu sous-estimé le travail de fond très important qu'avait fait cette responsable pour accueillir les enfants. Donc qui avait été accueillis avec chansons, gâteaux. Enfin c'était quelque chose de très 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 intense et très riche émotionnellement. Et puis une des mamans du centre est revenue le soir donc à l'endroit où les enfants étaient logés avec un énorme couscous en nous disant moi mes enfants ont passé une semaine avec les petits sahraouis dans le centre Barbus et je peux vous dire que c'est une chance pour mes enfants tout comme c'est une chance pour les petits sahraouis d'avoir pu passer cette semaine de jeu et d'insouciance en fait avec les petits ivriens. Et c'est vrai qu'elle était vraiment très très émue et elle me disait la chance qu'était cet échange de pouvoir provoquer comme ça entre des enfants ces moments.
Quelle langue parle-t-il? Comment ça se passe? Je sais que les enfants n'ont pas forcément de barrière, mais quand même.
Les enfants sahraouis, effectivement, donc c'est un dialecte, mais que beaucoup d'enfants, de nombreuses villes qui accueillent, manient plus ou moins bien. Et puis je pense que beaucoup de choses se passent avec l'échange informel, les jeux, le rire, la barrière de la langue, c'est pas une vraie barrière, honnêtement. Les chansons.
Ils ont quelques mots d'espagnol, puisque c'est leur première langue qu'ils étudient dès le primaire, puisque tous ces enfants sont scolarisés, l'école est très importante. Pour l'État.
Alors il faut le dire, ça peut-être, Claude Mangin-Sahraoui, c'est que ces enfants, on ne fait pas la charité, c'est des enfants qui sont éduqués, les camps sont très bien organisés, les femmes ont un rôle primordial dans les camps de Tindouf, donc ces enfants ne sont pas des petits êtres dénués de tout. Hein.
C'est au contraire, justement, les camps de réfugiés sont des camps, c'est les seuls cas au monde où ce sont le peuple sahraoui lui-même et ses institutions qui dirigent le camp. Bien entendu, c'est le HCR l'UNHCR qui apporte les infrastructures et le programme alimentaire mondial, puisqu'il y a, on ne peut rien cultiver dans ce désert. Mais tout le reste, il y a un parlement, il y a des mairies, et il y a toute une, il y a des écoles. Tous les enfants, 100% des enfants sahraouis sont scolarisés en primaire. Et après, jusqu'à présent, ils allaient beaucoup en Algérie. Et puis maintenant, on a créé dans chaque wilaya un collège. Et d'ailleurs, notre association soutient un programme de français pour former les professeurs en français, parce que autant l'espagnol est leur première langue, autant le Maghreb étant entièrement francophone, il est important que les enfants puissent avoir accès au français, d'autant plus qu'ils continueront au lycée, pour certains, la plupart, en Algérie.
Alors d'ailleurs, vous êtes partie là-bas pour former pas les enseignants, mais les animatrices. Vous les avez formées à quoi ?
Voilà, je les ai formées à l'animation, puisque avec l'association Enfants Réfugiés du Monde et puis Caritas Suisse et les Guides de France, à l'époque, nous avons le Polisario, l'Union de la Jeunesse Sahraoui, nous avait demandé de faire tout un travail, parce que les enfants, en dehors de l'école, justement, ils n'ont pas de loisirs. Ils sont dans le sable, il n'y a rien. Donc, on a créé des centres de loisirs avec des jeux. Et donc, on a été un peu le premier métier pour les animatrices. Elles ont eu un diplôme, l'équivalent un peu de notre BAFA et de notre BAFD. Et donc, j'étais partie là-bas pour faire cette formation. Et on a même créé, parce que les enfants grandissant, il a fallu s'occuper des adolescents, et la problématique adolescente n'existait pas dans la société nomade, puisque tout de suite ils devenaient les filles s'occupaient de la famille et les garçons s'occupaient des troupeaux. Et donc ces adolescents, il a fallu aussi créer des centres pour adolescents, et donc on a aussi assuré une formation pour l'âge suivant, l'âge adolescent.
Alors Julie Dussault, est-ce que c'est facile dans des villes de convaincre, parce que j'imagine derrière il y a des crédits, il y a l'investissement de non seulement des citoyens mais aussi des institutions de la ville, est-ce que c'est facile ?
C'est évident que c'est un dispositif qui forcément change un petit peu les habitudes, voilà, de services, d'agents. Je pense aux associations aussi qui accueillent, qui sont nombreuses. La question des subventions associatives se pose pour de plus en plus d'entre elles, et forcément les moyens loués sont voilà un peu moins là. Après, c'est vrai que malgré tout ça, j'ai l'impression, en tout cas, moi j'ai fait l'expérience d'agents qui étaient quand même très très conscients des échanges que ça pouvait provoquer pour les enfants, les enfants français des centres de loisirs ou des colonies de vacances, et que beaucoup sont quand même très conscients de l'intérêt de partager avec ses enfants leur
Est-ce que
leurs
les
vacances.
Enfants sahraouis parlent beaucoup de la question sahraoui, où ils sont quand ils sont ici, ils sont à fond dans ce qu'on leur propose et ils oublient un peu, bien sûr, ils n'oublient pas, mais leur vie parfois dure dans les camps.
Il me semble qu'il y a vraiment une capacité des enfants effectivement à revenir en enfance. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est un objectif aussi quand même de cet accueil et de permettre aux enfants de vivre leur vie d'enfant pendant 2 mois. On se rend compte, oui, que c'est un jeu auquel ils se prêtent bien volontiers pendant 2 mois. Mais effectivement, il y a des choses. On se rend compte que ce sont des enfants qui sont très mûrs, qui vivent des choses, très différentes. Et on se rend bien compte à bien des moments qu'il y a une intensité, dans certains moments, certains mots et ressentis des enfants
Et puis vous permettez aussi la prise en charge, par exemple, médicale, puisque là-bas, ils sont... Donc, tout ce qui est lunettes, tout ce qui est... ils font un check-up au début, aidés par les... Voilà, et qui sont bénévoles.
Hein. Combien il y a d'enfants accueillis chaque été ?
120 en France, mais il y en a 5000 en Espagne, par exemple. Il y en a aussi en Belgique, en Italie, en Suisse, 600 en Italie. Donc, c'est important. Et puis, il y a certaines villes qui les accueillent en famille. Donc, les familles se mettent ensemble pour leur organiser des loisirs. Il y a aussi des CE, il y a aussi...
Il y a des retours d'enfants sahraouis qui vous envoient une carte,
Malheureusement, les communications ne sont pas évidentes. L'association qui coordonne ce beau programme, heureusement, peut faire cet aller-retour avec les familles, avec les enfants. Donc, la plateforme pour la solidarité avec le peuple sahraoui, vient sur place pour coordonner au mieux ce programme et peuvent rencontrer les enfants, peuvent faire ce genre de retour. Après, évidemment, avec les moyens de communication difficiles.
Et puis, il y a le ministre de la Jeunesse aussi qu'on a invité pour venir à l'Assemblée générale de l'association. Fondation Mise Isabelle Carras.
Sarah, oui.
Sarah, oui.
D'accord.
Voilà, qui est venue nous éclairer. Puis on avait invité l'an dernier, au moment où mon mari a été fait citoyen d'honneur de la ville d'Ivry, on avait invité un des maires des villes qui accueillent des enfants et nous expliquer toute l'importance pour les familles d'avoir leurs enfants qui puissent venir à l'étranger pendant 6 semaines.
Claude Mangin-Asfari, on mettra de toute façon le nom de l'association, etc. sur le site, parce que j'imagine que vous avez besoin de bras et de solidarité. Claude Mangin-Asfari, vous venez d'évoquer votre mari, il est en prison avec 23 autres militants sahraouis qui sont condamnés par un tribunal militaire, ils sont à Rabat. Les avocats français internationaux qui ont voulu assister au dernier procès ont été expulsés manu militari, des députés avant l'avait été aussi. On voit bien que le Maroc est une dictature, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et d'ailleurs, en ce moment, les Marocains eux-mêmes se battent dans le Rif avec beaucoup de courage et une violence inouïe en retour. Peut-être dire deux mots des perspectives. D'abord, un autre film, Dis-leur que j'existe, une histoire sahraoui, qui est un film sur votre mari, Nama Asfari, que l'on salue, puisqu'il paraît qu'il écoute France Culture dans sa prison de Salé, près de Rabat. Donc on le salue. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qui pourrait aider pour sortir de cette impasse, malgré l'ONU, malgré le droit international, et peut-être faire pression sur les gouvernements français
Il est certain que, autant l'Espagne a raté la décolonisation et est toujours la puissance administrante, autant la France a une encore plus lourde responsabilité, et nous, en tant que citoyens français, on a toute notre responsabilité là, parce que la France fait partie de l'ONU, et fait partie, du Conseil de sécurité, est un des 5 membres, et que régulièrement, chaque année, elle menace de mettre son veto si, par exemple, on élargit le mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l'homme.
Ce qui est un minimum, quand même.
Voilà, et quand on connaît l'histoire de la France, elle aurait toute la légitimité pour permettre au Maghreb de s'unifier en permettant au Sahara occidental de devenir un pays indépendant, eh bien, la France est devenue non pas la solution, mais une partie du problème.
Alors, il faut
ce qui est quand même dommage.
Il faut dire juste, parce que nous allons passer à la pièce, mais que vous avez, avec l'ACAT, qui est une association chrétienne, je crois.
Pour l'abolition de la torture, on a porté plainte donc pour torture au nom de mon mari, et que auprès du comité contre la torture à Genève, et en décembre dernier, ce comité a condamné le Maroc pour fait de torture sur mon mari, ce qui a été très très mal perçu par le Maroc, et donc ils m'ont expulsée, donc je n'ai plus le droit d'aller voir mon mari, et actuellement il y a un procès en appel en cours depuis le mois de décembre, et ça se passe très mal, et je suis très inquiète. Le dernier acte, ça a été donc le retrait des avocats de la défense, et ils ont tabassé une partie des prisonniers lundi, qui ne voulaient plus participer à cette mascarade, qui ne voulaient plus aller au procès.
Bon, ben soyons attentifs, je ne sais pas quoi dire d'autre, on va mettre sur notre site tout ce qui permet de comprendre ce qui se passe là-bas, au Sahara occidental, mais aussi au Maroc, car il faut être solidaire aussi de des Marocains qui se battent. Merci beaucoup Claude Mangin-Asfari et Julie Dussault, et cet accueil des enfants, on espère voir des dessins. Il y a même un livre pour enfants qui a été édité après un été avec des enfants sahraouis, chez l'Harmattan. Voilà. Alors, Milena Vlak, vous découvrez peut-être comme beaucoup de gens cette histoire, mais en tant que metteur en scène, vous avez choisi, vous aussi, pour Avignon, un combat, même plusieurs, parce que Rallumer tous les soleils, Jaurès ou la nécessité du combat, qui est un très très beau texte.
De Jérôme Pélissier.
Voilà. Donc, pourquoi avoir choisi ce texte-là pour Avignon cette année ?
Alors, en fait, Ce spectacle a été créé en 2014 à l'occasion du centenaire de la mort de Jaurès. Et on continue à le jouer parce qu'il est toujours d'actualité. Au-delà de cette commémoration, il nous semble que la parole de Jaurès et les combats de Jaurès résonnent très fortement aujourd'hui, que ce soit lorsqu'il parle du colonialisme. Et voilà.
On vient d'en parler.
On vient d'en parler. Jaurès, bien sûr, dénonçait un autre colonialisme, mais enfin voilà. Quand il parle de laïcité, quand il parle de la confiscation de la démocratie par les hommes d'argent et les patrons de presse. Voilà, donc il y a, et puis tant d'autres que je ne peux pas tous citer. Oui.
Et je crois aussi derrière le, c'est pas un mythe que vous nous offrez, c'est pour ça que peut-être il est opérant pour penser le monde d'aujourd'hui, c'est un homme, l'homme Jaurès, avec ses compagnons de lutte, dont une femme journaliste et féministe.
Ça c'est de la fiction, parce qu'il n'y avait pas de femmes dans l'entourage de Jaurès, il n'y avait pas tellement de femmes journalistes, mais il nous a paru très intéressant de poser la question du féminisme. Justement, dans les combats de Jaurès, il en manquait un.
Oui,
il manquait
c'est
celui-là.
Ce que j'allais dire. Ouais.
Voilà.
Avez donc choisi aussi les côtés, l'ombre aussi, et pas que le soleil.
Absolument, oui, parce que Jaurès, tout grand qu'il est, il avait des lacunes, il avait des parts d'ombre, et ça nous a paru aussi intéressant de montrer Jaurès dans son humanité, puisque l'humanité est un combat très important pour Jaurès, à tel point qu'il a quand même nommé son journal L'Humanité. Voilà, et tout grand qu'il est, bien il avait des moments où il fléchissait, et le personnage d'Ève, le personnage féminin, le bouscule, l'interroge, et le met en échec. Sur le féminisme où il n'a pas été capable d'engager le Parti Socialiste.
Je trouve très intéressant de justement montrer l'homme avec aussi ses faiblesses et de ne pas en faire un héros, un mythe qui serait inapprochable. Et aujourd'hui, on a la tentation vraiment d'héroïser les hommes ou les femmes politiques. Je trouve que c'est assez salutaire. Alors pour ça, vous faites aussi appel à la musique et notamment... un instrument très populaire.
Oui, l'accordéon. Alors, il y a un personnage qui a été créé par l'auteur qui s'appelle le Gavroche, qui fait bien évidemment allusion à Victor Hugo, Misérable. Un personnage comme ça qui est le conteur, qui va nous mener à travers les événements et la vie de Jaurès, puisqu'on imagine qu'il vendait des journaux, comme beaucoup de petits vendeurs de journaux.
À la criée,
voilà, à l'époque. Il vendait L'Humanité, mais d'autres journaux aussi, et il a eu l'occasion de rencontrer Jaurès. Et c'est lui qui est un peu le fil conducteur à travers toute cette époque.
Bon, alors, une pièce qu'on va pouvoir voir à Avignon à 12h30, donc on peut y aller avec des jeunes, parce que vous
Absolument,
avez tout un volet pédagogique, j'espère.
Oui, c'est une pièce assez, pédagogique, qui veut faire entendre la parole oubliée de Jaurès. Quand tout à l'heure on évoquait le mythe Jaurès, tout de suite après sa mort, il a été panthéonisé. On en a fait effectivement une figure un peu intouchable. Et puis maintenant,
bonne façon d'enterrer. Les héros.
Voilà, exactement, et de les rendre inoffensifs.
Oui.
Ça arrangeait plein de gens, effectivement, de l'enterrer au Panthéon et de ne plus en parler.
Voilà. Alors, je vous rassure, j'étais il y a quelques semaines au Cameroun et j'ai vu un petit garçon de 5 ans dont le prénom était Jaurès. Alors, j'étais tellement étonnée, je lui ai quand même expliqué un petit peu qui était. Et on peut dire des choses aux enfants très petits de ce qu'a défendu Jaurès et que vous défendez toutes, mesdames, ici. Alors, La Fabrique, c'est le nom du théâtre, à Avignon, à 12h30, du 7 au 30 juillet. J'espère vraiment que vous aurez une tournée l'année prochaine.
Ben c'est pour ça qu'on va à Avignon.
C'est pour ça que je vous ai invité, pour vous aider, parce que je pense qu'il y a des paroles nécessaires à faire circuler, comme celle aussi que vous défendez pour les Sahraouis. Alors, on va retrouver sur notre site toutes les références de vos livres, films et associations, mesdames. Les Chemins Buissonniers, c'est déjà fini, mais vous pouvez... écouter, réécouter et télécharger sur le site de franceculture.fr et j'espère que Nama Asfari du fond de sa prison avec les 24 autres prisonniers que nous saluons et puis tous ceux qui luttent au Maroc auront l'occasion de réécouter cette émission. On les embrasse. Le Temps Buissonnier, Aline Paillet, Franck Lilin, Annie Comier, Jean-Richard Dufour à la technique. Pardon, je suis un peu émue parce que quand j'ai dit je les embrasse, ouais, je voudrais leur dire tellement plus. On les oublie pas et on sait combien c'est important quand on lutte. Le Temps Buissonnier, c'est fini, ça a filé trop vite. Vous allez retrouver les informations à travers le premier journal sur France Culture. Bon dimanche à tous.